Aujourd'hui, je reçois un invité qui fait vibrer la presqu'île de Saint-Nazaire et de la Baule et du coin au rythme des danses et des musiques afro-latines. Professeur de danse, DJ, organisateur de soirées et fondateur du festival afro-latino de Pornichet, le FALP, Yannick évolue au croisement de plusieurs univers. La transmission, la musique, la création d'ambiance et l'événement culturel. Aux côtés d'une équipe de professeurs et de passionnés, il contribue depuis plusieurs années à faire grandir une véritable communauté autour de la salsa, de la bachata, de la kizomba, des danses afro et plus largement des cultures afro-latines. Avec une vision qui dépasse largement la simple soirée dansante, il participe à créer des rencontres, des expériences et un rendez-vous culturel qui prend chaque année davantage d'ampleur sur le territoire. Alors dans cet épisode, nous allons parler de son parcours, de son évolution entre danse, musique et organisation d'événements, de la construction d'une équipe, des coulisses du FALP, mais aussi de ce que cela demande aujourd'hui de faire vivre une scène locale entre créativité, énergie humaine et réalité entrepreneuriale. Bref, comment on transforme la danse, la musique et une passion commune en un véritable projet collectif et culturel. Merci Yannick d'avoir accepté cette invitation. Donc j'ai déjà une première question. Aujourd'hui, alors tu es à la fois prof, DJ, organisateur de soirées, fondateur du FALP. Ça a commencé comment tout ça parce que c'est beaucoup de casquettes.
Déjà, avant même de m'exprimer à ce sujet-là, je tiens aussi à te remercier, toi, Manuelio, pour la proposition pour ce podcast. Donc, merci à toi, en tout cas, de nous mettre encore plus en lumière, parce que voilà, ça permet aussi aux gens qui ne nous connaissent pas de découvrir un peu tout ce qu'on propose. Donc
je t'en prie, c'est avec plaisir. Et qui ne nous connaissent pas, en tout cas, t'es déjà pas mal connu, je trouve, sur le territoire.
C'est vrai.
Vrai. Donc comment est-ce que ça t'est venu tout ça?
Alors comment ça m'est venu tout ça? Déjà, je suis passionné de danse de manière depuis toute mon enfance, depuis tout petit. Donc et un peu plus tard, à l'âge adulte, j'ai découvert les danses latines, notamment la salsa à Paris, et puis avec différents profs, j'ai pris des cours et j'ai décidé de me lancer. Et à l'époque, il n'y avait pas encore tout ce qui est bachata, kizomba. Donc, on était vraiment sur la partie salsa et la partie afro n'était pas présente. Donc voilà, j'ai commencé comme ça et au fur et à mesure, la vie familiale a fait que je me suis retrouvé ici sur la presqu'île. Et j'ai développé ensuite mon activité, mais de manière progressive. On pourra en parler, mais c'est assez long. Mais bon, si tu veux, on pourra détailler.
D'accord. Et donc, ça fait depuis combien de temps, finalement, que tu t'es lancé?
Ça fait 18 ans maintenant.
18 ah ouais, ans, 18 grosse ans, expérience.
Grosse expérience. On a commencé petit, hein, petit. Aujourd'hui, je suis très connu sur celui qui propose beaucoup d'activités, mais en réalité, on a commencé vraiment tout petit. Donc, c'est le travail qui a fait que le bouche à oreille, aussi les personnes qui viennent, qui participent, qui ont aussi développé mon réseau, quoi.
D'accord. Donc au début, c'était des petites soirées.
Des petites soirées. C'était des soirées où il y avait personne.
Ben oui, on commence.
C'était des soirées où il y avait personne, où il y avait trois élèves. Mais la passion était là. En fait, cette passion était là. Et du coup, les deux, trois élèves qui étaient, si on devait faire une année complète avec deux, trois élèves, on le faisait. Et, et on kiffait, quoi.
D'accord, ouais, t'as, t'as jamais, ouais, voilà, tu t'es jamais dit, tu t'es jamais découragé dès le départ
Non. En fait, j'étais tellement content d'avoir même un ou deux élèves. J'ai dit, mais c'est un truc de fou. Je kiffe ce que je suis en train de faire. Et puis au début, c'était pas du tout, dans le but d'être, d'en vivre, en fait. Mmh. À la base, c'était vraiment passion. Et moi, à côté, j'étais coach sportif. Donc, moi, je vivais du coaching. Donc, j'avais pas besoin de la danse. Et en fait, la danse s'était imposée naturellement au fur et à mesure du temps, quoi.
C'était quelque chose que tu avais envie de partager, que tu avais en toi et que tu avais envie de partager.
Oui. C'est quelque chose que j'ai toujours eu en moi. Quand j'étais à Paris, quand j'allais en soirée avec des copains, dès qu'on arrivait... En fait, on se disait, mais l'ambiance, il n'y a pas d'ambiance. Et nous, juste la musique nous plaisait, on commençait à faire un peu d'ambiance et puis ça galvanisait un peu tout le monde, quoi. Donc, si tu veux, j'ai toujours aimé ce côté un peu chaud. J'ai toujours aimé ce côté-là.
Ouais. D'accord. Donc, finalement, bah, de toute façon, la danse, la musique, tout ça, c'est proche. Et finalement, ça m'amène une question. C'est la question de tes influences musicales.
Ah, tu vois. Oh là là, c'est une question que je crois qu'on m'a jamais posé cette question-là. Mes influences musicales. En fait, moi, je suis né au Cameroun, donc je suis français d'origine camerounaise. Je suis né au Cameroun et moi, chez moi, mes voisins, à l'époque, tout le monde n'avait pas la radio, tout le monde n'avait pas les moyens de se payer une radio. Et mes voisins, ils mettaient de la variété française, du Céline Dion, du Claude François. Voilà, d'Alain Souchon, des trucs comme ça. Et moi, j'écoutais ça, mon oreille musicale, mon corps a imprégné ce style de musique sans pour autant se dire j'adore ce genre de musique. Mais sinon, à la maison, mes influences étaient les musiques d'Afrique centrale comme le Ndombolo, le hip-hop. D'accord. Parce que voilà, le hip-hop, c'était quand même quelque chose assez présent au Cameroun. Les danses du Cameroun, quoi, en fait, le Makossa, le Bikusi, le Bensikin qui est ma danse traditionnelle. Donc et vraiment le Ndombolo, c'était quelque chose, la musique congolaise, on a baigné dedans, la rumba congolaise. Ouais. C'était les parents, les dimanches, ils allaient danser. Donc j'ai baigné dans une culture musicale très large, mais sans pour autant me dire j'aime tout ce genre de musique. Mais en fait, c'était là, donc ça faisait partie du quotidien.
Ouais, ça faisait partie du quotidien. Bah alors du coup, ça m'amène une question. Comment est-ce qu'on passe de la musique africaine et du hip-hop à la musique latine? C'est quoi le tremplin?
Ouais,
c'est quoi la transmission?
Enfin, ouais, en fait, le hip-hop, c'était... on va dire que quand on était jeune, quoi, on se disait, on adore, et même j'adore encore aujourd'hui le hip-hop, mais avec une autre image, avec une autre vision par rapport à ça. La transition, en fait, elle s'est faite à Paris.
D'accord.
Paris, parce que moi, quand je suis arrivé en France, ben en fait, tout ce qui était hip-hop, style américain, n'était pas très... C'était plutôt hip-hop français, on va dire.
Ouais,
donc,
j'étais encore très développé. Ouais, c'était pas encore connu.
Voilà. Et puis, en tout cas, les gens ici aimaient plus le rap français, le hip-hop, les artistes de France, quoi. Et moi, j'étais plutôt style Quinry, comme on disait à l'époque. Et comment je me suis retrouvé dans le milieu latino, c'est vraiment le hasard, hein, parce que il y avait un événement qui était organisé par une association pas très loin de chez moi, et j'avais un grand frère du quartier qui allait souvent.
D'accord.
Et un jour, comme ça, je me dis, mais est-ce que tu vas comme ça? Il me dit, bah les gars, venez et tout, on y va. Et quand j'arrive à l'événement, je découvre et je me rends compte que je suis attiré par ce style de musique, par la salsa avec les percussions, par l'énergie que dégageaient les gens, par l'ambiance, le côté chaleureux que j'avais en Afrique et que je ne retrouvais pas forcément ici, parce que parallèlement, quand on arrive d'Afrique et on arrive en France, c'est pas toujours évident, parce que Noël par exemple, il fait froid, alors que nous là-bas, on est dehors, on est torse nu, en train de courir dans les rues.
Et je suis arrivé donc en France à 8 ans. Et ouais, c'est le premier souvenir.
Moi c'est
j'arrive en novembre et il fait froid.
C'est marquant, froid, voilà. Ouais. Donc du coup, dans cette soirée, et je me retrouve vraiment une chaleur humaine avec une ambiance de fou, quoi. Et Et moi, sachant pas du tout danser la salsa, je dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Waouh! J'ai envie, mais je peux pas. Donc, c'était mon premier pas.
Claque,
hein, j'ai pris une claque, parce que j'avais envie, je voyais les gens danser. Waouh! En fait, la musicalité me parlait, je pouvais danser tout seul, je pouvais bouger, j'aimais ça. Mais, j'arrivais pas à aller danser à deux. Et puis, c'est comme ça, et puis, toutes les semaines, j'y allais. J'allais.
T'étais piqué, quoi.
Voilà, j'étais piqué. C'est comme ça que j'étais piqué. Tout est parti de là.
D'accord.
Une petite soirée, pas très
longue. D'accord. C'est des musiques qui sont très fédératrices. Et justement, qu'est-ce que, selon toi, ça apporte aux gens, ces musiques-là?
Je pense qu'elle apporte de la légèreté aujourd'hui. C'est-à-dire que les gens sortent du boulot, ils arrivent dans un environnement où on a des musiques, on dit chaleur, qui donne, en fait, la musique, pour moi, la musique déjà a une force dans le corps, en fait, de l'être humain. Pour moi, la musique transporte une énergie. C'est un peu comme les éléments, c'est comme l'eau, c'est comme quand tu vois la mer, tu dis waouh, ça te crée une énergie. Je pense que c'est ce style de musique là, il y a beaucoup d'amour dedans, il y a beaucoup de d'énergie qui font que les gens, en fait, juste à écouter la musique, déjà ça les amène, ça t'amène loin. Et puis, c'est le lâcher prise, quoi. On sort du boulot, on va écouter des musiques festives, où on se détend, où on est dans la joie, qui donne la pêche, quoi.
Ouais, puis ça fait oublier, enfin, en tout cas, le temps d'une soirée,
oui,
ça
voilà.
Fait oublier un peu les petits soucis du
exactement,
quotidien.
Exactement. Ouais. Le temps d'un moment, on dit bon, ça y est, on lâche un peu, on va danser, on va juste écouter, même pas forcément danser, écouter. Je pense que ça procure ça. Et les musiques africaines aussi, elles ont cette force-là de porter une énergie positive vers les gens, quoi. Donc je pense que c'est ça que les gens recherchent aussi.
D'accord. Et donc du coup, c'est vrai que
c'est une sorte de thérapie, quoi.
C'est une sorte de thérapie, et donc t'es une sorte de docteur.
Mais tu sais quoi, et j'ai même une fois, je ne me rappelle plus comment elle s'appelle, j'ai même une élève qui a dit Yannick, la sécurité sociale devrait rembourser les gens qui viennent te voir, parce que tu apportes vraiment quelque chose de très très fort et de positif. Et quand les gens sortent de ton cours, en tout cas, peut-être, certes, ils ne seront pas soignés de leurs problèmes, ça ne va pas régler leurs problèmes, mais en tout cas, ça crée un choc positif, et ça peut aider aussi les gens, peut-être, après, à se dire ok, on a certes des problèmes, mais grâce à la danse, ça nous a redonné un peu d'énergie pour aller justement affronter ces problèmes-là. Donc, c'est un peu ça, quoi.
Et donc, ça, ça allait être ma question suivante, mais toi, c'est ce que tu transmets, finalement, au travers de tes cours. Qu'est-ce que tu cherches à ce que les élèves obtiennent,
En fait, la base, parce que on est dans une société où on prend. Après, on ne regarde pas les gens. Moi, je suis quelqu'un, à partir du moment où quelqu'un franchit la porte de chez moi, enfin, pouvait venir chez moi ou pouvait venir prendre des cours avec moi, ou pas, même juste pour regarder, je vais considérer la personne. C'est-à-dire qu'en fait, je considère tout le monde. C'est-à-dire que ce soit un très bon danseur, très bonne danseuse, pas bon danseur, voilà, peu importe ton physique, enfin, je donne la valeur. En fait, faut donner de la valeur aux gens, pour que chaque personne qui vienne dans mes cours se sente à l'aise, à sa place, qui ose poser des questions. Donc ça, c'est la première étape, parce que c'est pas évident d'arriver dans un endroit à prendre des cours et puis on se sent waouh. Moi, pour ça, j'ai toujours eu ce côté-là, hyper entre guillemets cool, au départ, pour pouvoir faire en sorte que les gens, en fait, quand ils viennent, ils se sentent à l'aise.
Bah oui, parce que c'est ça, quand on n'est pas danseur, moi je suis pas danseur, je sais que pour aller sur la piste, c'est pas facile.
Moi, j'ai mis deux ans avant de danser, tout ce qui est danse à deux, parce que c'est pas évident, tu n'as jamais dansé de ta vie à deux, et on dit, toi, tu vas guider, tu vas tout faire. C'est toi c'est façon de dire, c'est toi le lead. Donc, tu vas mener la danseuse, etc. Donc, tu dis, être proche de quelqu'un et dire, je sais pas faire. Et je sais que c'est à moi de le faire, mais je sais pas faire. Donc, ça, c'est un mécanisme qui peut prendre beaucoup de temps. Moi, ça a pris 2 ans. Et ce qui m'a plu dans ce processus-là, que moi, j'allais dans les soirées, où le prof Léo Hernandez, que je fais une petite dédicace d'ailleurs, il avait toujours cet accueil. En fait, il m'a inspiré aussi. Il avait toujours cet accueil, malgré que je ne faisais pas forcément les cours avec lui. J'allais à ses soirées, bah, il y avait toujours un, oh, amigo. À l'époque, il m'appelait Barracuda. Hé, Barracuda. Et tout ça. Parce que je faisais un peu, je faisais beaucoup de musculation.
Oui,
et tout
oui,
ça.
J'ai un petit peu vu, oui, oui.
Ouais, je faisais beaucoup de musculation.
T'es pas coach sportif. Donc,
et du coup, il y avait toujours l'accueil, quoi. Tu vois, c'était sans intérêt parce que, au final, je faisais pas forcément au départ les cours avec lui. Mais ça a mis 2 ans et je me dis, chaque personne qui vient me voir, je me fais tout pour mettre la personne à l'aise. Et si la personne ne veut pas prendre des cours tout de suite, il y a pas de souci, tu veux venir aux soirées juste pour regarder, faire des petites initiations. Donc, on considère tout le monde et chacun a sa place. Et dans mon état d'esprit de donner des cours, tout le monde a une place, quoi. Ce n'est pas j'ai payé l'abonnement et après on se revoit l'année prochaine. Même si tu viens dans mes cours, je ne te calcule pas, je fais mon truc. Non, je suis quelqu'un, j'observe, je regarde beaucoup et je veux que chaque personne qui danse avec moi, quand elle sort de mon activité, elle a le sourire, que tout s'est bien passé et qu'elle a passé, elle a pris un maximum d'énergie avant de partir.
Ouais, bah c'est ça, de l'énergie, des ondes positives, peut-être aussi se sentir un petit peu plus à l'aise, en tout cas,
tout
au fur
fait.
Et à mesure.
Exactement.
Et pour pouvoir aussi prendre du plaisir à danser et puis sortir. Alors, il y a aussi des personnes timides parfois, et peut-être sortir de la timidité.
Exactement.
Aussi.
Exactement. Moi, j'ai eu plein de cas de personnes comme ça qui au départ étaient très, très réservées. Et puis aujourd'hui même, on en parle, ça, ces personnes-là, ça les a aidés pour la danse et aussi pour la vie en société. Tu sais, quand t'es quelqu'un de réservé et que tu te rends compte qu'en fait, que les gens sont cool, les gens sont sympas, t'arrives à sympathiser avec les gens, t'arrives à faire des blagues aussi, comme tout le monde, t'arrives à t'intégrer dans une société où les gens, il n'y a pas que des personnes avec des mauvaises intentions. Il y a aussi plein de gens hyper cool, hyper gentils, avec qui on peut passer des bons moments. Donc, c'est un peu ça, quoi. Donc,
alors, on entrera dans le détail tout à l'heure, mais moi, ça m'intéresse de savoir finalement, parce que tu parlais de cours, quel cours tu fais finalement?
Alors, au départ, moi, j'ai enseigné la salsa. Au départ, c'était salsa et puis bachata, kizomba, afro. Afro, reggaeton, zumba, donc voilà.
D'accord. Et tu faisais tout ça toi-même?
Oui, tout.
Au départ?
Tout.
Ouais.
Non, pas au départ. Au départ, je fais que la salsa et l'afro.
D'accord. D'accord.
Et après, au fur et à mesure, les disciplines se sont augmentées, jusqu'à 6 ou 7 disciplines pratiquées par semaine, quoi.
Ah ouais, et c'était toi qui enseignais tout ça?
Exactement. Ouais.
Incroyable.
Ouais, incroyable.
Eh ben, dis donc, tu dors parfois?
Oui. En fait, j'apprends. Je suis autodidacte, j'apprends vite.
D'accord.
Quand ça m'intéresse, j'apprends vite. Quand ça m'intéresse pas, bah forcément, comme tout. Hein. En fait, moi, si tu veux, même en voiture, par exemple, je vais écouter un son, les pas vont sortir dans ma tête.
D'accord.
C'est-à-dire que je vais visualiser la chorégraphie sans l'avoir fait physiquement.
D'accord.
Donc, j'ai cette capacité-là, quand l'énergie de la musique me porte, en fait, je suis capable de créer une chorégraphie en 2 minutes, quoi.
Incroyable.
Et sans bouger. D'accord. Je m'assois, j'écoute, je dis, je vois ce pas, je vois ça. J'harmonise tout, mon cerveau enregistre tout. Et après, je le mets en situation, après je fais quelques réglages. Et ça, je pense, tu vois, en discutant avec toi, là, c'est fou parce que j'essaye de comprendre comment j'arrive à fonctionner comme ça. Si tu veux, l'anecdote, c'est quoi? C'est que j'ai une image qui m'est venue dans ma tête, c'est que quand j'étais petit, dans la cour de la maison familiale, et il y avait une compagnie de danse qui venait, parce que nous, la maison familiale, c'est avec les, on a la grand-mère, la maman, les parents, les cousins.
Oui, tout le monde vient ensemble.
Ouais,
à Madagascar, c'est pareil. Ouais.
Voilà, c'est un peu ça. Et dans la cour, et j'ai un oncle qui avait fait venir des potes qui faisaient de la danse. Ils avaient une compagnie et ils s'entraînaient dans la cour le soir. C'était genre le lundi ou mardi soir, ils s'entraînaient et tout dans la cour. Pendant ce temps, nous, on était en train de faire nos devoirs et tout ça. Et moi, tu vois, au lieu de faire mes devoirs, j'écoutais ce qu'ils faisaient, je regardais plutôt ce qu'ils faisaient. Et les gars faisaient des chorégraphies toute la semaine, c'était la même chose. Ils se produisaient comme ça. Ils faisaient des chorégraphies. Et un jour, je me lève, je fais la chorégraphie.
Ah ouais.
Sans l'avoir dansé.
Sans avoir dansé avant, ouais. Sans t'être entraîné, ouais, etc. Waouh.
Je fais la chorégraphie. Ah ouais. Je sais faire. Je la connais, la chorégraphie. En fait, moi, j'étais surpris parce que, d'accord, juste en regardant, et je pense que ça a développé quelque chose, mon imaginaire d'enfant qui regardait les autres danser sur une chorégraphie. Et je pense que, vu que je ne pouvais pas aller, parce que c'était interdit, nous, les enfants, d'aller danser, parce que nous, il y avait les devoirs et tout, il fallait travailler. Donc, en plus, au Cameroun, nous,
c'est carré. Voilà,
c'est carré, ouais, scolaire et tout, oui, ça. Oui, oui. Donc, j'avais pas le droit d'aller danser. Ouais. Donc, du coup, j'ai dansé dans ma tête. Je pense que quelque part, ça m'a apporté ce côté un peu créatif où j'écoute, ça m'inspire, je vois et je visualise. Voilà. Je pense que ça m'a aidé par rapport à ça.
D'accord.
Mais j'arrive à avoir du temps. Hein,
mais c'est en tout cas, moi, ce qui me surprend et c'est vraiment, c'est que j'ai l'impression que t'as vraiment cette aptitude. Alors, est-ce qu'on parle de don ? Oui, sûrement pour la danse, quoi, et pour t'adapter à tout type de danse.
Oui, exactement. Ça veut dire que moi. Quand j'ai fait des festivals, moi je suis ambianceur, j'ai mon équipe d'ambianceur maintenant avec moi, qui me suit partout, dans tous les festivals en France. Et souvent on a d'autres DJ qui mettent la musique. Nous, des fois, on leur donne nos sons aussi. Ce soir, les gars, n'oubliez pas de passer quelques sons en nous pour faire l'ambiance. Et parfois, ils passent des sons d'ambiance aussi à eux, des sons afro, reggaeton, peu importe. Et en fait, j'ai ces capacités, ou même rien à voir, généraliste, voilà, de la funk. On a cette capacité à écouter la musique pendant qu'on danse. On est en train d'analyser la musique en même temps. D'accord. Et d'ambiancer. Donc, ce qui fait que ça paraît fluide et les gens disent, mais attends, comment ils font? Ben, en fait, ils ont travaillé ça, mais non, des fois, c'est de l'impro. Il n'y a pas de. C'est juste l'énergie de la musique.
Oui, et je rebondis là-dessus parce que du coup, tu dis que tu avais la capacité à analyser la musique et tellement que t'es devenu DJ ou alors.
Exactement. Ça s'est fait. Cette analyse-là a fait que j'arrivais à découper les sons, à comprendre là, c'est ça, là, c'est ça, là, c'est ça, ouais, là, c'est ça. Tiens, l'artiste, il a fait ça, après, il a repris, il a mis là, ah oui, il a fait une fun. En fait, j'arrive à analyser la musique. Décomposer tel instrument, et puis voilà quoi, tu vois. C'est...
Et justement, ta casquette de DJ, là, comment est-ce que ça vient compléter ta casquette de prof de danse, de danseur?
Ça aussi, ça arrive au fur et à mesure. Hein. J'avais pas du tout l'intention d'être DJ. Moi, c'était moi, je voulais juste danser, m'ambiancer, enfin voilà. Et si tu veux, dans mes débuts, quand ça a commencé à bien prendre un tout petit peu avec les soirées salsa, avec les cours de salsa, j'ai eu la demande pour faire des soirées où je mixe, quoi.
D'accord.
Donc au début, la première soirée que j'ai fait ici, par exemple, j'avais pas du tout de logiciel, j'avais pas de platine, je m'y connaissais pas du tout dans tout ce que je sais aujourd'hui en termes d'installation son, etc. J'avais commencé avec juste un ordinateur où j'appuyais sur un bouton, j'ai changé de musique, je courais, je venais changer, je revenais. Et au fur et à mesure, et les gens ont kiffé.
Ouais.
Et au fur et à mesure,
Puis je pense que le plus important, comme dans pas mal de disciplines créatives, c'est finalement ce que tu amènes, pas la technique, quoi.
C'est exactement.
Ce que tu arrives à transmettre, musicale, etc. Et moi, je sens, en tout cas, parce que évidemment, j'ai pu participer à tes soirées. Moi, ce qui me frappe, c'est d'abord, t'es éclectique. Tu passes toutes sortes, de musique.
On voyage.
C'est exactement le bon terme, je pense. On voyage. Et puis, tu réussis à transmettre cette énergie à la fois au niveau des morceaux que tu passes, que tu choisis, mais aussi de comment tu arrives à ambiancer les gens. Est-ce que tu peux nous parler, développer un peu
cette partie-là, sans me demander de faire une formation pour expliquer ça, ça serait un peu difficile. Parce que si tu veux, j'ai cette capacité aussi à observer. Comme je disais tout à l'heure, je regarde tout le monde. Je regarde ceux qui dansent, je regarde ceux qui ne dansent pas, pour pouvoir capter l'énergie. Je regarde même ceux qui sont en train de manger, qui tapent du pied.
Ah ouais, comme d'accord. Ça. J'arrive, ouais,
je regarde partout, en fait. Je regarde tout. Je regarde tout ça. Tous ces aspects-là me permettent de créer autour de ça. Il faut que je mette la musique au bon timing. J'ai pas forcément la technique d'un DJ, de certains DJ qui ont vraiment une grosse technique. Moi, par contre, là où je suis imbattable, c'est mettre la musique au bon timing. C'est-à-dire que si la musique que tu devais mettre à 22h, tu la mets à minuit, ouais, elle n'aura pas la même énergie.
Oui, ça n'aura pas le même résultat.
Donc, moi, j'ai cette capacité à mettre les bonnes musiques au bon timing et observer. J'observe beaucoup ce que font les gens, comment ils reçoivent, comment ils réceptionnent la musique. Et après, bien sûr, il y a aussi un travail de communication par le regard, par l'échange, par un petit sourire, par un salut, hey, machin. Donc, tous ces genres de choses font que ça galvanise, ça regroupe et ça fait monter. Et puis, j'arrive à sentir aussi comment l'énergie monte. Et bien sûr, il faut savoir aussi faire descendre un peu et remonter. Donc, c'est un peu comme un feu d'artifice. Si le feu d'artifice, tu commences, bam, tu t'envoies le final. Au début, les gens vont dire, mais c'était nul.
Ouais, c'est une histoire de dosage, finalement. De gérer les temps pendant
exactement,
toute la soirée.
C'est un dosage. Ouais. Il y en a, comme tu disais, je passe tout style de musique, parce que t'en as qui vont aimer la kizomba, t'en as qui vont aimer la salsa, t'en as plutôt bachata. Et en plus, dans la bachata, il y a plusieurs styles. Dans la kiz, il y a plusieurs styles. Donc, la salsa, pareil, il y a style on two, on one, ou cubaine. Donc, t'as plusieurs styles. Et quand je vois mon public, je sais, toi tu danses ça. Toi tu danses pas trop, t'es un peu réservé. Ok, je vais te mettre un peu d'ambiance généraliste. Il y a pas assez de cavaliers, qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, une petite animation. Voilà, c'est en fait, vu que je considère chaque personne, chaque personne a l'importance. Donc du coup, je prends toutes ces informations que mon cerveau crée truc et puis
oui. Mais ce que je remarque et c'est dans tes soirées, c'est que moi d'habitude je danse pas, je reste sur le côté. Ouais. Et là dans tes soirées je danse.
Ah.
Et en plus bon bah je danse, je suis pas un très bon danseur, mais tu vois je me sens pas regardé, je me sens pas observé,
jugé.
Voilà comme dans certaines soirées où parfois je me dis, même si évidemment la plupart du temps et très honnêtement il y a pas de langue de bois, ça vient de moi. C'est moi qui me mets des restrictions.
Ouais, des fois, on se met un blocage.
Voilà, c'est pas les gens qui disent, qui sont là, qui vont te juger, mais je me dis toujours, oh là là.
Oui, on me regarde, machin.
Et avec tes soirées, et ben justement, t'as cette capacité-là, enfin en tout cas, ça marche sur moi du moins, à faire danser les gens, tout simplement, à faire oublier que
est-ce que je suis trop fort, est-ce que ils sont trop forts. Bien sûr, t'as dans les soirées t'as ceux qui ont un très très bon niveau, où quand tu les vois danser, tu dis oh là là, est-ce que je vais aller danser à côté d'eux, etc. Mais à côté de ça, tu vois aussi d'autres qui ont un niveau moyen, d'autres qui connaissent pas, bon, on s'en fout quoi. Les gens ils se sentent à l'aise, et aussi je danse avec tout le monde. C'est-à-dire que soit débutant, t'as jamais dansé, j'ai dit on m'invite des fois à danser, des personnes qui ont jamais dansé la bachata ou la salsa, je dis ok, on va essayer. Allez hop, on arrive et quand je danse j'arrive à trouver un équilibre entre je te fais danser, je connais ton niveau, mais je vais te faire danser plus que ton niveau. Je vais apprivoiser ton énergie et je vais la transformer en un petit truc qui va être sympa. Et puis voilà. Et puis les gens se sentent à l'aise. Et c'est pour ça que t'as tous les niveaux. Les gens viennent nous voir aussi parce qu'ils disent que voilà, on fait pas de la danse, mais là-bas, on va passer un bon moment. Juste à regarder les gens danser, sourire, rigoler, ça crée quelque chose. Et après, ça donne envie d'y aller, quoi. C'est ça.
Ouais. Moi, tu sais, ce qu'on entend dire de tes soirées, c'est que, de tes soirées ou même de tes événements, globalement,
en général,
c'est que les gens disent, en tout cas, moi, ce que j'ai entendu dire, c'est j'aime bien aller là-bas parce que c'est simple. J'aime bien les soirées ou les événements de Yannick parce que c'est moins académique. Je suis pas obligé de savoir les pas, de compter dans ma tête, etc.
Bien sûr.
Tu vois. Et donc ça me paraît plus accessible et je me sens plus le droit de me lâcher.
Bien
voilà,
sûr.
C'est ce que j'entends. Moi,
bien sûr, parce que en fait, La danse, bien sûr, il y a des codes. Quand tu fais de la salsa, tu as des codes, tu fais de la bachata, tu as des codes de danse à deux, forcément, pour pouvoir travailler cette alchimie. Mais non, rien n'empêche de sortir de ces codes-là. Il y en a que moi, des fois, je les vois en soirée, sur un rock'n'roll, ils vont faire des pas de salsa. Parce qu'ils sont à l'aise comme ça, tu vois. Mais non, chacun peut danser comme il veut, en vrai. La réalité, c'est comment ton corps exprime. Mais non, bien sûr, pour prendre des cours de salsa, parce qu'il y a des codes, il faut qu'on ait des pas, c'est normal. Mais le côté académique, dans ma manière de danser, je ne l'emploie pas forcément.
D'accord.
Je vais écouter la musique. Si la musique fait des tonalités, envoie du son qui me fait vibrer d'une manière, je vais complètement sortir du cadre. Et ce qui fait que, quand on arrive, les élèves aussi, forcément, ils s'imprègnent aussi de cette énergie que je transmets dans ma manière de danser, pour faire la même chose. Et donc, du coup, on se prend pas la tête, pareil sur les animations, on arrive à sortir du cadre de, allez, le pas de salsa, c'est ça, on passe à autre chose, c'est pas grave. Et justement, on écoute plus la musique que faire des pas de manière académique. Tu vois, je suis des, parfois, quand on a nos galas de fin d'année, on est sur quelque chose d'académique où ça et ça et ça et ça, c'est comme ça, bon, comme ça, comme ça.
Mais oui, parce que j'allais me faire un petit peu l'avocat du diable, même si, selon moi, évidemment, je n'étant pas danseur en plus de ça, je trouve qu'on gagne toujours à ouvrir aux gens nos cultures. Mais je me fais un peu l'avocat du diable en disant, on peut pas plaire à tout le monde. Comment est-ce que tu arrives à quand même à rassembler ou en tout cas à convaincre les puristes, ceux qui sont un peu plus, est-ce que tu as parfois des critiques dessus? Comment est-ce que tu réponds?
En fait, c'est très compliqué. C'est vrai que on a des puristes qui, par exemple, dans les cours, des fois, t'en as certains qui vont être que dans la technique. Ils veulent être que dans la technique. T'en as certains qui veulent apprendre, mais en même temps, c'est cool. Et un peu de légèreté. Donc, en fait, j'essaye, sur des phases dans mes cours, de donner des éléments, d'individualiser si je peux.
D'accord.
En disant, tiens, je vois telle personne au niveau musique, il est plus à l'aise à faire des décomptes en salsa. Je dis, tiens, tu vois là, il y a un temps fort comme ça, machin, machin. Et en fait, c'est un langage, j'emploie un langage différent selon les personnes, tu vois.
Ouais, finalement, t'es très sur mesure.
Ouais, c'est sur mesure, mais vraiment. Mais ça ne se voit pas, parce que je l'amène d'une manière un peu tellement cool et fluide, on a l'impression que c'est... Mais c'est tout est... Tout est bien ficelé.
Les gens disent que on passe vraiment des soirées mémorables avec toi et avec ton équipe. Mais pour toi, qu'est-ce qu'une soirée mémorable? Quels sont les ingrédients finalement? Bon, t'en as parlé un petit peu, mettre à l'aise les gens, etc. Mais est-ce que tu vois d'autres choses?
Ce que je vois, forcément la musique qu'on met, la musique, le style de musique qu'on va mettre, comme tu disais tout à l'heure. De passer, de créer de l'émotion. Ça veut dire que, on est sur une soirée latine, à un moment donné, je vais sortir un son, mais pas forcément commercial, mais qui envoie une énergie, mais qui est complètement à l'opposé de ce qu'on a annoncé comme style de soirée, une soirée afro-latine. On ne s'attend pas à écouter un son, par exemple, de hip-hop, tu vois. Et là, tu sens un son hip-hop à l'ancienne qui cartonne de tout.
Ouais, et puis j'ai remarqué, en tout cas, à chaque fois sur tes soirées, au début, je me disais, mais attends, là, il va choquer des gens, il va mécontenter. Et finalement, non. Parce que finalement, alors, il y a aussi une histoire de génération, je pense aussi, j'en sais rien. Mais en tout cas, ça continue de fédérer, il n'y a pas de rupture. Pas de rupture de l'ambiance, c'est vraiment ça continue de fédérer et les gens
ils adhèrent. Et ça crée un choc positif des émotions, parce que déjà on essaye de faire monter les gens sur le SBK avec Afro, donc comme un feu d'artifice, on monte et après on continue à monter, mais avec un autre registre, et ça crée vraiment ce choc émotionnel qui dit waouh, là c'est, et les gens, après tu reviens sur ton truc initial. Ce que la marque, notre identité, mon identité par rapport à mes événements, c'est les animations. les animations, ouais. Ça c'est le truc, tu vois. Mm-hmm. C'est ma marque déposée, tu vois. Les animations, c'est
tout part
c'est,
de
c'est...
là finalement.
Ah bah ouais, mm-hmm. Tout part de là parce que dans l'animation, tu sais quand ta soirée elle est un peu, les gens, tu vois, tu sais, au début, des fois les gens ils arrivent, ils sont un peu posés, cool, tu vois. Ils osent pas forcément, des fois, même s'ils sont habitués, tu vois, ils osent pas forcément se lancer. Et puis là, tu envoies une animation, tout de suite, ouais. Ça réveille tout le monde. Mmh. Et après, la soirée, elle est lancée. Tu sais que là, c'est parti.
Ouais,
Donc, les animations, ouais, c'est... Et puis, bien sûr, je travaille aussi avec des lieux qui ont cette identité-là, de vouloir justement dans le même état d'esprit que moi. Si je ne le sens pas, le lieu, j'y vais pas.
Ouais, tu vois,
c'est pas pour de l'argent, j'y vais pas. S'il y a pas la chimie,
la connexion, tu vois. L'alchimie, la connexion, c'est une question de feeling finalement.
C'est comme avec toi, tu vois.
Oui, bien sûr.
On ne se connaissait pas forcément, c'est dans l'énergie. Il y a un truc. Ok, bah carrément, ok, on y va, quoi.
C'est vrai que ça a tout de suite matché. Ça me fait très plaisir que tu sois là. Et du coup, parce que je t'entends dire là depuis au début, t'étais tout seul. Et puis là maintenant, tu dis c'est notre marque, c'est notre. Donc tu vois, je pense que tu vois où je veux en venir. Maintenant, t'es en équipe.
Ben tout à fait, tout à fait. Au niveau, comme tu sais, au début, comme je le disais tout à l'heure, c'est j'étais tout seul. Il y avait 6 ou 7 danses que je pratiquais en étant seul, en donnant beaucoup, beaucoup d'énergie. Bah, mon public a explosé.
Il a fallu répondre à la demande.
Je pouvais pas me multiplier. Yannick, on a besoin de toi ici. Ah, Yannick là, je peux pas. Donc, en fait, j'ai recruté autour de moi des personnes que je sais que, voilà, ça va envoyer de la même énergie et qui ont le même état d'esprit. Avec qui on se complète bien sur la partie cours et animation. Donc j'ai recruté au fur et à mesure une prof, 2, 3, 4, et plus créer ma team. Donc dans mon équipe, j'ai Réma, elle est spécialisée dans tout ce qui est Zumba.
D'accord.
J'ai Guy.
Ouais.
Que lui, il fait de l'afro.
D'accord.
Un peu différent.
D'accord.
Qui est mon frère d'ailleurs.
Oui.
Lui, il fait de l'afro.
Un
autre style. Il fait du dancehall. Il fait de la bachata. Donc, c'est un autodidacte aussi comme moi parce que bon, on a grandi ensemble et nous, on faisait nos devoirs pendant que les autres dansaient dehors quand on était petits. Bon. Donc, lui, j'ai aussi Charlène qui a une douceur, qui, elle, est propose la kisomba. Donc, ça, c'est la partie courte à l'année. Et sinon, autrement, ma team d'ambianceurs et DJ, prof et DJ que j'ai, c'est moi, Guy et Gerson.
D'accord.
Gerson Domingo, que j'appelle, on l'appelle Astico Kudu.
D'accord.
Ça, c'est une histoire aussi. Et ça, c'est ma team pour les festivals. C'est-à-dire, quand on va dans les festivals, j'amène cette équipe-là. Sinon, pour les cours à la semaine, on est plusieurs. Des fois, on peut être dans 3 lieux différents à proposer nos activités en même temps parce qu'il y a de la demande. Ça m'a débordé. Moi, je sais plus. C'est partout. On entend parler. Attends, mais j'aurais été une star ici. Moi, je suis rien. Je suis normal. Il n'y a pas parce que vraiment les gens ils mettent. J'ai l'impression que parfois on est pour les gens qui entendent parler de moi qui m'ont jamais vu. Je dis, mais lui, c'est une star, c'est qui? On entend parler de lui partout. Je dis, moi, je suis normal, il n'y a pas tout ça.
Et moi, j'ai une question toujours par rapport à l'équipe. Donc, comment est-ce que, finalement, tu les as convaincus? Comment est-ce que tu as réussi à fédérer ces personnes-là autour de ton projet, autour de tes projets?
J'ai fédéré, comment j'ai convaincu? Bon, mon frère, c'était facile.
Oui.
Mais j'ai mis du temps, parce que lui, il était sur Angers. Mmh. J'ai mis... 5 ans à le faire venir. Bon, il avait sa vie aussi personnelle et tout ça. C'était pas forcément évident. Donc, je l'ai convaincu dans le sens où quand il est venu chez nous ici, il a vu comment j'ai apporté le truc. Il a vu l'apport que ça pouvait avoir sur la presqu'île, les gens, comment ils étaient intéressés par rapport à ce qu'on proposait. Ça l'a motivé, quoi. Mmh. Donc, il s'est dit, on y va, quoi. Et pareil pour les autres collègues, j'ai dit voilà, mon projet c'est ça, nous c'est la bienveillance, c'est le partage, c'est la danse. Donc si tu es dans cet état d'esprit, tu vas cartonner et moi je vais te porter dans mon équipe, on va se porter, on va s'encourager et puis on va transmettre quelque chose de très très fort et du coup les gens vont kiffer quoi.
D'accord. Alors, d'accord. Et donc, du coup, comment est-ce que tu passes donc de tout ça, des cours, des soirées, enfin, ça grossit au fur et à mesure. Et à un moment, comment est-ce que ça devient un festival ou comment est-ce que tu arrives au festival Afro-Latino? Ouais,
c'est toujours dans cette continuité, tu vois. On est vraiment dans l'histoire de ce feu d'art. Entre guillemets, ce que je fais aujourd'hui, c'est tout ce qui s'est passé avant. C'est vrai que à l'époque, il n'y avait pas de festival sur la presqu'île. Et puis, c'est surtout aussi... comment j'arrive à ça? C'est les rencontres. C'est les rencontres des élèves qui deviennent des amis, des bénévoles, qui s'identifient aussi à ce que je propose, qui veulent véhiculer ça aussi. Et à un moment, je me dis, mais qu'est-ce que je pourrais faire d'aussi grand qu'une soirée en termes d'émotion.
Ah, tu m'étonnes.
Donc là, l'idée du festival, c'est a été l'évidence quoi. Et sans prétention, petit festival avec 150 personnes à peu près la première année, mais on était très contents. On avait 40 bénévoles et tout. Donc ça a commencé comme ça en fait. Et puis on a voulu apporter la même énergie qu'on apportait dans les soirées au festival, malgré qu'il y a plus de monde, tu vois, et sans perdre l'identité, on a dit, je ne veux pas qu'on perde l'identité du partage, de la danse et de la bienveillance, quoi, parce que plus ça grossit, plus forcément, c'est pas évident de gérer les énergies, toi. Donc l'idée, c'était d'avoir autour de moi des personnes sûres, de confiance, qui ont vraiment enregistré cette identité-là, et du coup... une fois que j'avais mon équipe constituée de bénévoles, d'amis qui sont des amis aujourd'hui, et des profs, collègues, du coup, ça a créé ça et puis ça a fait gonfler le festival, quoi.
Ben ouais. Et justement, aujourd'hui, c'est vraiment un festival établi, en tout cas dans la région. Et voilà. Et derrière cet événement qui grossit, c'est quoi la réalité des défis que le public n'arrive pas, ne voit pas? C'est quoi les coulisses d'un événement comme ça? Comment est-ce qu'on fait pour arriver à mettre sur pied un tel événement?
Alors, comme je disais tout à l'heure, je suis autodidacte. Mais j'ai appris à manager. J'ai appris à manager parce qu'au début, je faisais de tout. Mais les coulisses, c'est beaucoup de travail. C'est énormément de travail. C'est préparer un festival, c'est un an de travail. Ouais. Clairement, c'est pas 3 mois, 6 mois. C'est une stratégie, c'est du management. C'est de s'entourer des bonnes personnes, de mettre des personnes compétentes, qui ont une compétence dans les meilleures dispositions. Si tu es compétent dans le digital, dans l'informatique, tu vas être bénévole plutôt vers ce secteur-là. Si tu es compétent en restauration, à l'accueil, en tout cas, l'objectif de management, c'était de trouver des bonnes personnes pour que les personnes qui puissent être bénévoles ne soient pas bénévoles dans une tâche où ils ne sont pas à l'aise. Donc, chaque bénévole doit être à l'aise. C'est pour ça la bienveillance. Et beaucoup de travail, hein, en fait. C'est énormément de travail. Il n'y a que ça. Et le sens du détail. Nous, on veut que l'événement soit à la hauteur de ce qu'on appelle festival. On veut que les gens qui viennent, qui font de la route, qui viennent de loin, de Paris, de Marseille, de Bordeaux, peu importe, quand ils viennent, il y en a même qui viennent de Suisse, d'Espagne, de la pondichée, super. Donc, en fait, quand les gens viennent, ils disent, là, OK. L'accueil, déjà, est là en place. L'organisation est là. Tout est en place. Ils n'ont plus qu'à profiter.
D'accord. C'est intéressant. En tout cas, vu de l'extérieur, on sent que c'est vraiment très, très bien mené. Mais j'avais une question un peu supplémentaire. Ça, c'est que, évidemment, je vois les affiches et tout. Je vois que tu as des partenaires et tout qui sont... pour certains un peu, en tout cas, qui ont l'air d'être extérieurs un peu à ce monde-là, comment est-ce que tu les convaincs, ces partenaires-là, de te suivre sur ce festival?
Ça aussi, c'est quelque chose que j'ai. Alors aujourd'hui, tu vois, tu m'as présenté. Aujourd'hui, je suis aussi ambassadeur de la marque MG.
C'est Yannick El Mambo. Donc, je suis là aujourd'hui pour vous faire découvrir le nouveau véhicule, la MG EHS. Elle est juste incroyable. Au niveau confort, vous avez vraiment un espace très, très agréable intérieur avec des finitions qui sont très, 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 très cool.
Et c'est pas quelque chose qui, pareil, je n'étais pas destiné à ça. Et les partenaires, en fait, j'arrive à les convaincre par ce que je vais proposer sur place. C'est-à-dire que je vais aussi mettre en avant le fait que si vous nous aidez à avoir ça ou ça ou ça en termes de logistique, ben, en fait, on va vous donner aussi une possibilité d'exposition. Ouais. Donc, c'est-à-dire que les partenaires sont cités sur notre site internet, sont sur nos flyers, font des expositions de voitures, flyers, roll-up. Enfin, donc, ils sont mis en avant. Et j'ai créé des rencontres aussi entre partenaires pour qu'ils puissent échanger en termes de business. Donc, pendant le festival.
Ça, c'est intéressant. Et ça, c'est pendant le festival, le public
ne voit pas, mais... pareil, la mairie de Pornichet qui est partenaire aussi. J'invite quelques élus. Le maire de Pornichet qui est venu déjà 2-3 fois visiter un peu nos installations en termes de déco, en termes de prestations, qu'est-ce qu'on propose, par curiosité. Et puis, il a bien apprécié. Donc, en fait, les partenaires, on essaye aussi d'avoir des partenaires locaux, surtout locaux. Donc, notre stratégie, c'est d'avoir nos partenaires du coin. Et les partenaires nous connaissent aussi de manière indirecte. Et je te prends un exemple. Je donnais des cours dans un bowling en 2017, je crois. Je reconnais une élève. Parce que j'étais intervenant dans les écoles aussi, de temps en temps, pendant les périodes de l'étape, ils appelaient ça l'étape à l'époque. Et je vois au loin une jeune de 12 ans, 13 ans avec son papa et il jouait au bowling, tout ça. Je dis, hey, salut, ça va, tu vas bien? Je l'appelle par son prénom. Et de loin, son père est ici, mais c'est un prof de danse. Mais quel est le lien avec ma fille qui a 13 ans? Et il pose la question à sa fille. Il dit, tu le connais celui-là? Elle me dit, bah oui, c'est notre prof de danse. À l'école, il venait à l'école.
Ah.
Il dit, ah ouais. Et. Quelques mois plus tard, je le rencontre. Il est directeur de l'une des marques
des partenaires. Ouais.
Des partenaires.
Ouais, ouais.
Et j'échange avec lui. Il me dit, mais toi, t'es trop fort. Toi. Il me dit, tu as reconnu juste le prénom de ma fille alors que tu l'as vu il y a 3 ans à l'école. À la limite, tu viens, tu fais ton cours. Tu en as rien à foutre des prénoms des gens. Même si j'arrive pas à retenir tous les prénoms. Mais en tout cas, les enfants, par exemple, j'essaye de garder, de retenir leurs prénoms. Parce que je sais que voilà, l'enfant a besoin d'avoir cette identité-là où le prof connaît son prénom. Et il me dit, ma fille, elle t'adore, quoi. En tant que prof, ça veut dire que l'image que t'as laissée dans le visuel de ma fille, c'est hyper positif. Il me dit ça. Localement,
ouais, c'est une force.
C'est une force. C'est une force. Et donc, nous, on te suit en termes de partenaires, tu vois. Donc, c'est des rencontres. C'est beaucoup de rencontres. Les gens, nos partenaires ont vu le sérieux de ce que je propose.
Ouais, et puis j'ai l'impression aussi, c'est la faculté que tu as de leur donner de l'attention à chacun.
Tout à fait. Tout à fait. Je leur donne justement ce côté je suis là, ok, on va faire ça, on pourra proposer ça, qu'est-ce que vous en pensez? Enfin. Voilà, et ça, c'est quelque chose qui s'est développé au fur et à mesure, en fait. Aujourd'hui, je suis l'un des seuls festivals en France avec autant de partenaires et avec une visibilité aussi forte, en tout cas sur la gestion des partenaires, quoi. On a vraiment quelque chose de fort. En tout cas, un festival afro-latine.
On le remarque bien. Quand on habite dans le coin, on peut pas passer à côté. Et justement... Là, maintenant, c'est établi. Je pense que ça a vocation à encore se développer de plus en plus. Mais à un moment, quand est-ce que tu as senti que ça avait vraiment pris une autre dimension? C'est à partir de quelle anecdote ou quel moment, ou quelle année même?
C'est à partir du FALP 5, donc il y a 4 ans.
D'accord.
Que là, on a basculé. On a basculé en termes de participants. Parce qu'au début, on avait peut-être, la première année, j'ai 200 participants. L'année d'après, 300.
Ah ouais.
Bon, c'est vrai que la bascule, bon, il y a eu la bascule stratégique. Parce que ça, c'est pas, ça, c'est les coulisses aussi.
Bien sûr.
La bascule stratégique était, nous, on était à Kenesa, par exemple, à Pornichet, mm-hmm. les deux premières années. C'était bien parce qu'il y avait ce côté rassurant pour moi. J'avais besoin d'être rassuré dans le sens où il y avait déjà une logistique en termes de son, lumière. Il y avait une régie sur place. Donc, c'est une salle de spectacle. Donc, ils avaient déjà tout l'équipement.
Tout ce qu'il fallait, ouais, ouais.
Mais ils n'avaient pas ce qu'il nous fallait. Enfin, en tout cas, au niveau logistique, sur place, il y avait ce qu'il fallait. Mais au niveau, par exemple, plage horaire, on n'était pas aussi souple.
Oui.
On n'avait pas ça. Au niveau des salles, il y a des gros manquements que je savais que si on restait à Quai des Arts, qui était très bien, le festival, il aurait coulé.
Ouais.
Donc, ce qui fait que la bascule stratégique, c'était au FALP 3. On a basculé à l'hippodrome de Pornichet, où certes, le site était vierge. Il y avait tout à faire.
Tout à faire dedans.
Tout ouais, à ouais. Tout de A à Z.
Peut-être, alors, tu me diras si je me trompe, mais il était peut-être plus identifiable aussi par les gens autour.
Ah bah totalement, totalement.
Par les gens du coin. Pornichet, c'est connu quoi.
Bah oui, Pornichet c'est un peu l'emblème de l'hippodrome, ouais. C'est un peu l'emblème de Pornichet, oui. Tu vois. Mm-hmm. C'est t'organiser un truc à l'hippodrome, c'est pas rien, c'est très puissant.
Bah oui.
Voilà, c'était donc moi les deux premières années, je voyais pas tout de suite me dire je vais à l'hippodrome de Pornichet organiser un truc et avec tout le risque que ça.
Et pareil, comment est-ce que tu les as convaincus les propriétaires ou les gérant, enfin, je sais pas très bien, mais de l'hippodrome. Comment est-ce que tu te dis, comment est-ce qu'ils ont dit oui finalement à un projet comme le tien?
En fait, si tu veux, ça s'est construit avec plusieurs étapes. C'est-à-dire, avant même d'arriver chez eux, ils savaient déjà qui j'étais.
D'accord.
Parce que moi, j'avais déjà aussi accompli pas mal de choses dans Pornichet, avec la ville. J'ai rencontré le maire avant de créer le festival. J'avais rencontré le maire pour lui exposer mon projet. Pour dire, voilà, je vais faire ça comme événement. Ça va amener du monde. Même si j'avais pas la vision que j'ai aujourd'hui sur ce que ça allait apporter, j'avais déjà des idées. Donc, si tu veux, quand je vais les rencontrer, j'apporte aussi des garanties en termes de sécurité. Je dis voilà, il y aura une boîte de sécurité qui sera prise, il y aura un acompte qui sera. Donc en fait, ils voient le professionnel qui arrive.
Oui.
C'est-à-dire que le sens du détail, t'arrives pas juste moi j'aime la fête, j'ai envie d'organiser un truc. T'arrives avec des garanties aussi. Et du coup, aujourd'hui, ils m'ont donné les clés de l'hippodrome. Voilà, la confiance est établie. Je peux bloquer autant d'années que je veux à l'hippodrome. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ma notoriété. Et aussi, une fois ma notoriété est faite, sur place, ma manière d'échanger avec eux, ils voient que voilà, le gars, il veut bien faire les choses, il veut faire sa carré. Voilà. Et tout ça, en fait, ça rassure les lieux qui ça rassure l'hippodrome, en tout cas.
Et donc, tu dirais aujourd'hui que c'est le passage à l'hippodrome qui
c'est le passage à l'hippodrome. Voilà, ça, c'était le premier point sur la partie stratégie.
D'accord.
La partie stratégie. Parce que là, c'était compliqué, sinon. Et ensuite, bien sûr, quand on bascule à l'hippodrome, même si on a déjà 2 ans d'expérience, c'est comme si on recommençait, parce que là, c'est tout l'inconnu.
C'est une autre dimension.
C'est une autre dimension. Ouais. Le truc, il est immense. Je dis, wow, qu'est-ce que je vais faire là-dedans? Et on coupe la salle en deux, on fait une salle. Après, les idées viennent. Je dis, bon, comment on peut faire pour développer? Et là, je crée une troisième salle.
D'accord.
Sauf que la troisième salle, c'était parce que, justement, quand on arrivait à l'hippodrome, c'était froid d'extérieur. On n'entendait pas la musique.
Mais oui.
Et là, j'ai créé une troisième salle en l'extérieur. J'ai dit, là, c'est le hall, le grand hall. On va mettre un parquet au sol. On va mettre des DJ. On va mettre un peu de son. Quand t'arrives en mode carnaval, c'est un festival, quoi. Et je pense que la bascule, elle s'est faite quand j'ai ouvert plusieurs salles.
D'accord.
Vraiment. Le côté vraiment festival. Et là, on s'est retrouvé à 4 salles. On est passé de une salle à 4 salles. 4 espaces, quoi, dédiés avec des stands, etc., des commerçants qui viennent exposer, etc. Et au FALP 5, la 5e édition, c'était là où c'était l'anniversaire, c'était l'explosion, quoi. C'était,
d'accord.
Là, on a vu vraiment qu'on a passé un cap, tu vois.
D'accord.
Donc, avant, c'était régional, maintenant, c'est devenu national, quoi, tu vois.
D'accord. Et justement, c'est marrant parce que ça me paraît tellement évident pour moi qui suis dans le coin, mais c'est peut-être pas évident pour ceux qui connaissent pas bien. Finalement, qu'est-ce que c'est que le FALP? Enfin, qu'est-ce qu'on y fait? Qu'est-ce qui s'y passe finalement?
Alors, le FALP, c'est un festival, le festival afro-latino de Pornichet. Alors, qu'est-ce qui s'y passe? Moi, je fais venir des acteurs nationaux, des professeurs, donc des artistes, professeurs, qui viennent enseigner des disciplines qui sont autour de l'afro et des danses latines. D'accord. Donc ça, c'est le premier point. Donc on invite une trentaine d'artistes qui viennent justement proposer leur activité à des débutants, des intermédiaires, des avancés et des novices aussi. Mmh. Donc il y a des stages. Il y a des stages tout au long de la journée du samedi, le vendredi soir, le dimanche maintenant aussi. Il y a un spectacle de danse amateur et professionnel. C'est-à-dire qu'il y a des écoles de danse, des associations qui viennent. On a nos élèves qui vont danser. On a des professionnels, donc les profs ou les artistes qui viennent, mm-hmm. qui ont des shows à présenter.
Ah ouais.
Donc, on a tout ça. Et puis, on a des soirées avec DJ. Mm.
C'est très complet,
voilà.
Finalement.
Voilà, donc t'as des DJ qui sont dans plusieurs espaces, mmh. où les gens peuvent naviguer d'un espace à un autre, profiter de la musique généraliste, aller dans la salle de bachata, aller dans la salle salsa, aller dans la salle kizomba, donc aller dans la salle généraliste pour ceux qui ne dansent pas. Ça veut dire qu'on ouais. Aujourd'hui, les généralistes représentent, quand il y a un concert full, ça représente à peu près 30%. C'est énorme.
Ah ouais, bah oui,
des gens qui ne dansent pas du tout la salsa ou la bachata. Il y a un festival, là, j'ai entendu parler, j'y vais.
Ouais. T'as réussi à convaincre finalement pas mal de
des
personnes.
Des non-danseurs.
Ouais, des
c'est
non-danseurs.
30%, tu vois, mm-hmm. en soirée, c'est fou. Ils ouais, viennent s'ambiancer. Et c'est ça, tu vois, qu'on recherchait. Et ce qu'on avait créé à hauteur d'une soirée, on a réussi à la porter à la hauteur d'un festival. Mmh. Et ça, c'est la plus grande fierté aussi à ce niveau-là, parce que c'était pas donné, parce que un festival, plus c'est gros, plus forcément c'est difficile de garder l'identité pure,
mais
les
oui.
bases.
Mais oui.
Et donc, on a réussi quand même à créer ça, à garder ce
côté-là.
Ça,
ouais.
Et ce qui revient aujourd'hui, c'est ça, le FALP. Mmh. Tout le monde vient, quoi. Mmh.
Donc, t'as donc le FALP, les soirées que t'organises. T'avais commencé tout seul, et puis t'as monté une équipe. Et aujourd'hui, t'es très, très structuré. Mais où se situe l'équilibre entre la passion et l'entrepreneuriat? Enfin, comment est-ce que tu arrives à ménager les deux côtés, finalement?
Alors, les deux côtés, en fait, il faut, c'est de l'organisation. Il faut être, il faut, quand on organise, enfin, quand on a ce projet d'organiser un festival, il ne faut pas juste avoir, juste se dire, j'ai le projet, et après, à 3 mois du festival, je me lance. Mmh. C'est structurer un tout petit peu, l'événement, quelles sont les attentes, quels sont les besoins, que ce soit au niveau logistique, au niveau bénévolat, au niveau intervenant, qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour que, justement, tout s'harmonise, en fait. Mmh. Pour harmoniser tout ça, donc ça passe par une structuration, ça passe aussi par un recrutement de bénévoles, des personnes sûres qui ont des compétences dans tel ou tel ou tel domaine, que ces personnes-là vont pouvoir nous aider justement à structurer le festival sans pour autant prendre beaucoup de temps, de leur temps, si tu veux.
Oui, oui.
Un vidéaste, je veux pas, quelqu'un qui sait faire un peu de vidéo, lui, il pourra peut-être nous aider, même si c'est pas son métier de base, par mm-hmm. exemple, mm-hmm. il va pouvoir nous aider plus facilement que quelqu'un qui n'a jamais fait un montage, mm-hmm. par exemple. Donc, on essaie de recruter des personnes qui sont à l'aise dans tel ou tel domaine, mais qui ont des compétences, et puis surtout, on structure l'événement un an à l'avance, quoi. Et après, le côté passion, on veut toujours plus, on veut un feu d'artifice, on veut, mais j'ai aussi cette capacité à prendre du recul, à me dire, ok, Yannick, tu veux ça, mais attention, il faut que ça reste équilibré, parce que le but aussi est que, on fait la fête, on apporte de la musique, on apporte de la culture, on apporte de l'énergie aux gens, mais derrière, si c'est pour aller pleurer, il n'y a pas assez d'argent dans le compte pour pouvoir payer les prestations, les différentes prestations, parce que voilà, c'est un gros budget, ça coûte très très cher, donc on a 3 jours pour le faire, pour remplir, équilibrer le budget sur place, mais on a une année pour préparer ce budget, pour préparer le festival, donc faire rentrer de l'argent pour pouvoir justement anticiper un peu tout ça, quoi. Donc on est entouré, je suis entouré des personnes sûres qui ont avec qui on organise des réunions au fur et à mesure pour pouvoir justement échanger sur différents points sans négliger aucun des points. C'est-à-dire que chaque point et chaque secteur, qu'on dit, nous on dit des secteurs, des pôles, on va dire, est important. C'est-à-dire que ce soit en restauration, que ce soit au niveau du bar, que ce soit au niveau de l'accueil, que ce soit au niveau des vestiaires, que ce soit au niveau de la décoration, partenariat, parce qu'on va développer aussi ça, les partenaires qui nous aident sur la partie logistique, ça fait des économies, parce que quand on fait le calcul, en se disant si, justement, on avait eu à payer nous-mêmes le prêt de, je sais pas, d'un camion, combien ça nous coûterait? Ouais. Est-ce qu'on a le budget pour ça? Non. Et après, on a aussi des sponsors, des partenaires et sponsors. Sponsors, ils nous accompagnent sur la partie finance. Cela nous permet d'avoir des tarifs abordables. Donc, tout ça est calculé, en fait, tarifs abordables, tarifs familiales, pour que quand les gens viennent, ils se sentent à l'aise, ils peuvent, que ça soit accessible pour tout le monde, quoi. Donc on met tout ça en place et voilà. Mais moi, j'ai cette capacité aussi de ne pas être que dans la passion.
Oui.
De ne pas dire, oui, je suis passionné, je m'en fous si ça marche ou ça casse. Non.
T'as la tête sur les épaules, voilà. Tu réussis quand même à
me détacher de la passion.
À prendre de la hauteur. Ouais.
Voilà, à être détaché de la passion, parce que si on est que dans la passion, en tant que président et responsable numéro un, c'est-à-dire que je prends cette responsabilité de dire, mes équipes, je les protège, si je dois les protéger, s'il y a un problème, c'est moi qui dois leur régler le problème. Si jamais le problème est très grave, ça veut dire que j'endosse la responsabilité du festival pour que mes bénévoles et mes responsables ne se trouvent pas dans le truc en merde. Si ça n'a pas marché, c'est peut-être on a mal fait. Ça veut dire que j'écoute, je prends les idées, je mets les personnes dans les meilleures dispositions et je valide ou je ne valide pas. Je prends la responsabilité de ça. Donc, ça veut dire qu'ils sont détachés, donc ce qui fait qu'ils apportent aussi beaucoup d'énergie. Donc c'est tout ça en fait. Donc j'ai la chance d'être. En fait, je me suis découvert une passion qui est le management d'équipe.
Mais oui.
Donc la partie humaine est hyper intéressante. Moi, j'aime ce côté-là. La partie humaine, prendre du temps, écouter. Si je fais mal, les personnes n'hésitent pas à me le dire, Yannick, tiens, là, cette année, t'étais un peu distant, ou t'étais un peu. Donc, en fait, je prends toutes les informations et je mets dans les meilleures dispositions. Et c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Et donc, là, je suis déjà en train de préparer le Falpe 10, alors que le 9 n'est pas sorti. Le 9 n'a pas encore eu lieu. J'ai déjà lancé le 10, quoi. C'est l'anniversaire, donc je suis déjà dans cette construction d'événements, de la préparation de cet événement. Donc,
tu réussis à anticiper.
Voilà. 2 ans en avance.
Ouais, bah, c'est incroyable. Donc, c'est incroyable. Et donc, toi, aujourd'hui, t'es très, très bien implanté dans le territoire. Et donc, la scène afro-latine, tu la vois évoluer. Toi, t'es au cœur de cette scène-là, afro-latino, donc sur le territoire. Comment est-ce que tu vois son évolution?
Alors, moi, j'ai plein d'idées. Son évolution sur la prestation artistique, j'ai beaucoup d'idées sur ce que je veux. Et après, bien sûr, il y a les budgets aussi qu'il faut gérer. Mais en tout cas, on a la chance d'avoir un site comme l'Hippodrome de Pornichet qui est très modulable. Tu peux vraiment faire un choix de proposition énorme, parce que nous, c'était les grands. Donc, nous, bon, un indice, moi, en fait, par exemple, le faire évoluer, c'est de créer un marché. L'idée, c'est de créer un marché. Créer un marché afro-latin, avec des artistes, des artisans qui font des appropriations d'expositions de tableaux, de l'art, enfin, de la cuisine, des mets, plein de trucs qui tournent autour de l'afro-latine, qui tournent autour, que ça soit un lieu autant, bien sûr, la partie qu'on apporte sur la partie danse et musique, c'est culturel, aller encore plus loin et vraiment créer un marché nocturne où les gens viennent, où il y a plein d'exposants, les gens viennent se balader, acheter des différents produits, etc. Donc ça, c'est quelque chose dans du court terme, c'est quelque chose que j'ai envie. Voilà, l'idée de faire un jour proposer un feu d'artifice ouvert au grand public, à tout le monde, à l'hippodrome, c'est quelque chose aussi. Et après, il y a plein de choses, je ne dirai pas tout, parce que je garde quelques-uns pour moi.
D'accord. Et donc, alors, aujourd'hui, tu dis que t'en es au Falpe Neuf, t'as que de chemin parcouru depuis le début des cours, où tu donnais des cours, etc., et toute cette évolution, l'équipe qui se structure. Si tu devais retenir, alors c'est difficile, une anecdote, un moment de ce parcours-là qui t'a vraiment marqué. Est-ce que t'as une anecdote, un événement, un moment marquant dans tout ce parcours qui te vient en tête ?
Voilà, wow, c'est vrai que c'est pas une question, c'est pas évident parce qu'il y a plein de choses qui me passent dans la tête. Un événement marquant, c'est ce qui vient souvent. La première image que j'ai, c'est en fait lorsque on a commencé à faire danser les élèves. Là, ça a été notamment les enfants, parce qu'on a des enfants qui dansent. Là, c'était très marquant parce que pour moi, parce que je retrouvais vraiment le public, parce que quand les enfants dansent, forcément les parents viennent, les grands-parents. Je retrouvais vraiment le côté famille qui fait partie de l'identité de ce que je veux dégager dans mes événements. Donc là, on a vraiment basculé dans le côté. C'est un festival de danse, mais souvent dans les festivals de danse, il y a très peu d'enfants. Et là, on avait des enfants de 5-6 ans, avec des grands-parents qui venaient les voir, les parents, les cousins. Et là, ça a été hyper marquant. Et d'ailleurs, j'ai quelques intervenants à mon festival, artistes intervenants, DJ, qui eux-mêmes organisent aussi des festivals. Ils me disent, mais punaise, c'est la première fois que je vois ça dans un festival, avec des familles, des enfants, dans un festival de danse afro-latine.
Hein, bien sûr.
Parce que ceux qui ne font dans les autres festivals, ils doivent avoir des festivals où, bien sûr, qui sont adaptés aussi, où les enfants peuvent venir. Donc, en tout cas, nous, comme c'est plutôt soirée, plutôt cours de danse à deux, donc ça touche moins les enfants. Donc, le fait que nous, on propose des activités aussi pour les enfants, donc forcément, je voulais intégrer ça aussi au festival. Et là, pour moi, c'était l'un des moments les plus marquants où je me suis rendu compte que oui, là, ok, on a atteint ce niveau où on est un festival vraiment familial. C'est pas familial juste par les dires, par les mots.
Il y a l'épreuve.
On est familial par l'épreuve. Quand on a la grand-mère qui vient, on dit, tiens, il faut laisser les places de devant pour les petits anciens qui ne peuvent pas rester debout parce que nous, on propose un show de danse. C'est debout, assis, tu vois. Donc, c'est pas sur une scène. Donc, ce qui fait que la visibilité est forcément moins intéressante. D'ailleurs, on a développé autour de ça pour pouvoir avoir plus de visibilité. D'ailleurs, cette année, on aura un écran.
Ah ouais.
En même temps que les enfants vont danser ou les adultes, enfin peu importe, les groupes qui vont passer, et la vidéo sera diffusée en même temps. Donc ce qui fait que ça va donner plus de visibilité aussi aux personnes qui sont un peu en arrière, etc. Donc voilà, pour moi c'était ça le moment que je retiens, le côté famille.
Ouais, c'est ce côté en fait où finalement tu réussis à toucher des nouveaux publics et à rendre donc l'expérience Falpe familiale. Ouvert vraiment à tout public. Et quoi.
Totalement. Je t'ai dit, par exemple, j'ai ma tante qui est sur Paris, elle ne danse pas du tout la salsa. Mais elle aime danser, quoi, voilà. Et elle est venue avec son mari au festival. Moi, ça m'a touché énormément parce que comment je l'ai apporté le truc à elle, je lui ai dit, mais il faut que tu viens, un peu, ça me permet de se voir. Elle est venue, elle a dit, mais attends. Moi, c'est le côté personnel qui elle me dit, attends, mais Yannick, mais tu t'en rends compte, mais c'est toi le maestro, c'est toi le patron ici, là.
Ben oui.
T'as vu tous ces gens qui t'aident, qui bossent pour toi et tout. Je me dis, en fait, c'est parce que je pense que c'est... Et mes bénévoles me disent, c'est un retour parce que tu nous apportes toute l'année. Ils me disent, franchement, on est trop fiers de toi, à titre personnel en tout cas, au-delà de ce que ça peut apporter professionnellement, à titre personnel, d'avoir une partie de ma famille qui vient, ma sœur qui est venue, qui ne danse pas du tout, qui est venue, qui a fait le déplacement. Et du coup, ça, c'est plus, tu vois, ça a une valeur en tout cas sur la partie personnelle, c'est une valeur très très forte pour moi. C'est de dire que j'ai réussi à faire quelque chose et ma famille est là pour dire waouh, ça c'est incroyable ce que tu es en train de faire, ce que tu as réalisé. Et ça, oui, personnellement, c'était un moment marquant pour moi sur un titre personnel. Et à titre pro, voir les familles venir voir les enfants ou leurs proches danser là, c'est pour moi, c'était si je dois retenir, c'est ça que j'ai retenu.
Et du coup, ça m'amène une question un petit peu subsidiaire, un petit peu surprise d'ailleurs, qui n'était pas forcément prévue.
Oui.
Mais c'est, moi je remarque que toutes tes activités, tu me dis si je me trompe, mais en fait elles sont vraiment, que tu le veuilles ou non, je pense, centrées sur toi. Ils viennent parce que c'est Yannick. Ouais, comment est-ce que tu gères ça finalement? Comment est-ce que tu fais pour gérer tous ces retours là, c'est très positif certes, mais qui peuvent aussi faire perdre pied parfois.
Oui, tout à fait. Mais franchement, c'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident parce que je donne tellement aux gens que en fait les gens me le rendent, mais des fois trop. Des fois, il y a des moments où c'est vrai que faut jamais perdre pied. En tout cas, mon humble niveau de notoriété ici dans la région, j'ai toujours été quelqu'un de très très simple. Mais c'est vrai qu'on peut parfois, ça peut arriver, on est vite débordé. Forcément, il y a aussi des personnes qui peuvent être jalouses. Enfin, mais en tout cas, je pense que je garde pied par rapport à mon éducation. J'ai eu une éducation où je sais d'où je viens. Voilà, et on a été toujours dans les choses simples et profiter. Voilà, on n'a jamais exagéré, tu vois. On est toujours dans le respect, dans la bienveillance, tu vois. Donc, je garde toujours au pied, ces valeurs là, même si parfois c'est, comme tu dis, c'est pas facile à gérer. Parfois, lors d'une soirée, t'es en train de mixer,
t'es beaucoup sollicité.
T'es beaucoup sollicité. tu peux pas brasser, quoi. On va danser. Mais attends, j'ai la musique et tout. Donc, je dis tout avec bienveillance. Et tu sais, au début, je n'arrivais pas à dire non
pour aller danser. Ça, c'est quelque chose qu'il faut gérer.
J'ai dû travailler sur moi pour dire en fait non, pas maintenant, peut-être après, si j'ai un peu de temps. Parce que, comme vu, étant donné qu'il y a beaucoup plus de monde, si je me dis je vais danser, je vais que danser. En fait, j'ai la partie danse. Je suis en train de danser, mais j'ai aussi la gestion de la musique.
Bah oui, de la soirée.
Et la soirée, d'où le fait que j'ai recruté des personnes qui bossent avec moi au quotidien. C'est-à-dire qu'avant, j'étais tout seul dans une soirée, maintenant, je suis toujours à deux. On est deux ou trois. Pour justement garder cet équilibre là. Ok, il y a plus de monde, mais on va essayer de maintenir le même niveau que quand il y avait moins de monde. C'est-à-dire que le côté partage, le côté danse, le côté énergie. Donc j'arrive à travailler avec des personnes autour pour m'accompagner, justement pour que j'ai des moments d'échange, parce que sinon, parce que comme je te disais, moi je peux être dehors en train de parler avec quelqu'un, en train de boire un verre en terrasse vite fait parce que je viens de balancer un son. Mais je regarde partout.
Mais
je regarde. Je peux pas m'empêcher parce que je veux que ça se passe bien. Donc, en fait, moi, quand je finis l'événement, j'ai besoin d'un moment de calme parce que je donne beaucoup, en fait, autant physiquement que cérébralement, parce que mon cerveau n'est pas en pause. Mon cerveau est en train de regarder tout ce qui se passe. Je suis partout. Et du coup, je rentre chez moi, j'écoute pratiquement pas la musique latine ou afro, très peu, parce que j'ai besoin de couper mon cerveau et on arrive.
Pour te ressourcer, repartir.
Et repartir, reprendre l'énergie, quoi.
Alors, maintenant, j'ai une question que je pose traditionnellement, surtout aux gens expérimentés comme toi. C'est, qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui débute et qui a envie d'organiser des choses comme toi, que ce soit dans l'événementiel ou qui a une passion, pour pouvoir développer cette passion?
Quelqu'un qui a une passion, qui souhaite organiser un événement, que ce soit dans la danse ou autre, je dirais, il faut le programmer longtemps en avance. Il faut l'anticiper. C'est-à-dire qu'il faut le structurer. Il faut le structurer. Au début, bien évidemment, la structurer ne veut pas dire qu'on aura tous les éléments, mais en tout cas, il faut avoir une base, il faut avoir un début de colonne vertébrale, voilà. Quelque part, pour dire, OK, je me lance dans un truc, peut-être ça ne va pas marcher, mais j'ai donné le maximum de ce que je peux. Même si ça ne marche pas, ce n'est pas grave. Au moins, je sais que j'ai tout fait pour que ça marche. J'ai tout donné. Là, ça n'a pas marché cette fois. Peut-être la fois d'après, ça a marché. Mais en tout cas, ne pas avoir de regrets après.
Ne pas avoir de regrets.
Enfin, ouais. Si, mais attends, putain, j'aurais peut-être pu mieux m'organiser. Et c'est ça, en fait, ne pas avoir de regrets. Et aujourd'hui, tous les festivals que j'ai organisés, j'ai jamais eu de regrets. Tout ce que j'ai fait, toutes les prises de décision, j'ai jamais eu de regrets. J'ai toujours fait avec anticipation. Et puis voilà, moi, je donnerais ce conseil-là, en tout cas. Et bien sûr, essayer de s'entourer des bonnes personnes, hein, c'est important. D'être passionné, organisé, surtout ne pas se dire je fais ça pour de l'argent. Parce que si on se dit on fait ça pour de l'argent, ça ne veut pas dire qu'il faut en perdre pendant l'événement. Mais il faut que l'objectif soit vraiment je suis passionné, j'ai envie de faire un truc pour montrer, donner, créer une ouverture à plus de monde. Les retombées vont arriver forcément. Mais c'est d'abord l'amour pour la passion que tu as qui va faire en sorte que ça marche.
Ouais, et puis la sincérité.
La sincérité. Voilà, la sincérité dans ce que tu mets dans ton projet. Et ça, c'est important. Ouais, la sincérité, clairement, tu as trouvé le mot juste. Voilà, la sincérité dans ton projet, dans la valeur de ton projet qui va faire que ça va marcher. Et bien sûr, il y a des rencontres aussi. Il y a tellement de choses. Mais en tout cas, la sincérité, c'est la base. Et après, le reste, ça suit. Peut-être pas à la même vitesse, mais ça va arriver et tout va se mettre en place et ça va le faire. En tout cas, le conseil que je donnerais, c'est ça, en fait.
Ouais. Eh ben merci, c'est des très bons conseils. Alors ben voilà, l'émission touche à sa fin. Moi, ce que je retiens vraiment, c'est que t'es quelqu'un qui donne de l'attention et t'as du retour, du coup, t'es quelqu'un justement de sincère dans ce que t'apportes, dans les projets, de fédérateur aussi. Tu réussis à fédérer beaucoup de personnes autour de toi sur des valeurs vraiment positives. Et puis la joie, la bonne humeur, voilà, ça c'est quelque chose d'important. Mais en même temps, t'es très structuré. Ça aussi, c'est ce que j'ai remarqué.
Tout à fait.
Et ça donne vraiment quelque chose. Enfin, t'as une personnalité qui est très complète et je comprends le succès. Donc, merci à toi.
Bah, merci à toi aussi. Merci. En tout cas, c'était un réel plaisir de participer à ton émission. Moi, je dis à ton émission. En tout cas, c'était une première pour moi. Et vraiment, merci vraiment pour ta simplicité et la manière dans laquelle tu as abordé le sujet de manière très, très simple pour me mettre à l'aise. Hein, c'est important. Et en tout cas, j'espère qu'on aura... J'ai visualisé déjà... j'espère en tout cas une future collaboration sur d'autres projets. Donc j'ai déjà visualisé. En général, quand je visualise, ça se réalise.
Eh bien, l'avenir nous le dira. Mais merci en tout cas. Merci de ta participation.
Et comme on dit, c'est cadeau, c'est cadeau.
C'est cadeau.
Alors cet épisode d'Encréa est désormais terminé. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner si vous êtes sur YouTube, à lâcher des likes, des commentaires, bref, vous connaissez la chanson. Et sinon, à me suivre sur les différentes plateformes de streaming. Voilà, en attendant le prochain épisode, prenez soin de vous.